Jean Lorrain, Le vieux rose, conte trouble. Pourquoi Maxime d'Orgis a tué sa maîtresse? Jamais les jurés n'admettront cela. C'est un cas si particulier. D'Orgis était sobre, donc il n'a pas saigné cette pauvre Fanny dans un accès d'ivresse. Dans un accès de jalousie, encore moins. Jalousie de quoi? Du passé ou de l'avenir? Musique wagnérienne ou exposition des arts rétrospectifs? Jalousie du présent. Mais Fanny était une fille galante, mais elle était aussi une galante fille. Elle ne trompait pas Maxime. D'abord, le meurtre ne fut qu'une incidence. En tout ceci, le seul coupable, c'est le vieux rose. D'Orgis est un dépravé de couleur. Un dépravé de couleur. Et comme nous nous récrions tous, Olivier Sigord continuait de sa voix blanche. « Oh, vous ne direz pas, messieurs, qu'il existe entre les couleurs et les affections de l'âme, vulgairement appelée le sentiment, une corrélation bizarre, mais inexplicable, qui éveille les unes au moyen des autres et les autres au moyen des autres, celle-là réciproquement. La couleur réfléchie par le miroir de l'œil donne au cerveau l'impression de la vision, ce qui est le phénomène immédiat. L'impression perçue par le cerveau devient sensation, laquelle sensation éveille, en affectant l'âme, toutes les idées acquises ou préconçues se rapportant à la couleur saisie dans la vision, d'où l'affection de l'âme ou sentiment. N'est-il pas des vers dépravés et troublants, mordorés comme des peaux de reptiles, subtils et lumineux comme de clair poison, qui éveillent l'idée de débauche, de crime, d'agonie somptueuse, tout au raffinement comme les Borgias. Et les derniers Valois, ces Borgias du Nord, en donnèrent l'exemple soit au château Saint-Ange, soit dans les anciens Louvres. Il a des roses moins douloureux, qui pâlissent, qui parlent d'amour lentement savouré, lentement expié, dans un bonheur éteint. Des bleus glacés d'argent, triomphants, chimériques. Robes de courtisane ou de sainte royale. D'autres chastes et froids, rêveurs comme des vierges. Et puis des bleus souffrants, d'une douceur étrange, doux comme un clair de lune empli de vols de fées, le bleu des contes bleus. D'autres, enfin, sont intenses et limpides, comme un ciel de juillet, et racontent l'été, les blés mûrs, les longs jours. Le vert glauque est perfide, attirant, un abîme. Le jaune est insolent, féroce, éclatant, dur, tout un siècle galant, musique, amour légère, pourtant mélancolique, revit dans les pays, dans les rayés lilas, clairs jonquilles de siècles précédents. L'écarlate sanglant royal est plein d'orgueil, d'impunité, d'audace, d'astuce. C'est la couleur des puissants, comme couronnée des des pays et des papes, mêmes. Tragique, il rappelle l'Église des cardinaux rouges, c'est le maître écrasant. Et le violet est cruel, humble, rampant, sinistre. Les crimes des évêques, trahisons et supplices, flamboient dans ses reflets. Enfin, moi qui vous parle, j'ai vu de mes yeux vu une étoffe aria, sorte de toile d'argent brodée de damier rouge, qui, sanglante et splendide, racontait Troie en feu, les pauvres comériques et la mort des héros. Mais ce sont là des exemples élémentaires, des sensations presque enfantines. Je vous demande pardon de les citer. Mais admirez que le voyant des couleurs et des nuances, que le patient, malgré lui, de leurs affinités, soit nerveux. Un érudit initié au raffinement de l'art de toutes ces époques peut être un énervé des mornes élégances de notre vie moderne et juger sur quel immense et douloureux clavier de sensations et de sentiments il peut jouer de la gamme des nuances. D'Orgis était cet érudit, ce maître, ce patient douloureux et nerveux des couleurs, ce passionné de nuances, ce brisé de la vie. D'Orgis était cet érudit, ce patient douloureux et nerveux des couleurs, ce passionné de nuances, ce blasé de la vie. Sa vie, il avait bien voulu en soulever un brin de voile. Un soir, après une rencontre presque journalière dans le Capharnaüm hébraïque et bohème de Sephora Rosnitz, la brocanteuse de la rue Charlot, cette merveilleuse juiverie où viennent s'échouer avant de s'écouler de là sur Paris et de Paris en France et de France en Europe, tous les arrivages des étoffes du Levant, des broderies portugaises et des velours de Gênes, jusqu'à ces gros de Tours devenus introuvables, découverts au fond de lointaines provinces par les yeux furteurs d'une armée de Jacob et de vieux Zacharie, revivant tous de père en fils l'instinctive passion du peuple d'Israël pour le gain, le trafic, le luxe et les échanges. Passion qui les a fait les maîtres de l'or du monde, à Paris comme à Londres, tous brocanteurs d'argent, enfoncés jusqu'au cou dans les papiers, les chiffres, banquistes et banquiers, tous facteurs de banqueroute, enfiévrés d'affaires, subtils et intelligents. Et c'est chez cette puissance que se fit la rencontre. Dès le premier jour, rien qu'à voir avec quelle déférence et quels yeux dévots la Rechmitte des pieds, ce grand homme pâle, à l'extérieur raide et au front de clubman, je compris à quel sérieux rival, puissant connaisseur et plus puissant payeur, votre humble serviteur avait hélas affaire. Car la Resmith, à part la synagogue, le rabbin et son grand chien Tommy, qui la suit pas à pas toujours collé entre ses jupes, n'a que deux serments, que deux sentiments, pardon, dans son âme de juive. L'aveugle amour de l'or et l'aveugle respect de l'amateur sérieux, connaisseur, érudit, passionné, comme elle, des tissus et des nuances, car la vieille est artiste et brocanteuse, mais maintenant, dans l'art qui n'est pas brocanteur, Et c'est d'égal à égal, et non pas de client à marchande, qu'on est traité dans la soupente de la rue Charlot, pour peu qu'on ait joint à d'importants achats quelques prières de goût et de vraie connaissance, d'hebdomadaire, que dis-je, de presque quotidienne rencontre dans le ghetto de Sephora, avait fini par nous lier, Dorgis et moi. La courtoisie dont il fit plusieurs fois preuve en ne me disputant pas à coups de billets de banque certaines précieuses pièces, objets de mes convoitises, avait tout à fait éteint en moi la rancune de l'amateur pauvre contre l'amateur riche. Et un jour, Dorgis voulut bien lever pour moi la consigne qui faisait de sa vaste garçonnière une des collections les plus fermées de Paris. Ah, comment vous en racontez les splendeurs? Depuis le crime, tous les journaux, on arrête par le menu les trésors de ces appartements. Les reporters ont passé par là avec une science de commissaire-priseur. Et ce n'est pas de loge de concierge où l'on sache aujourd'hui, à deux louis près, le prix des verreries du hall Renaissance et des tapisseries sur fond d'or de la fameuse chambre verte. La fameuse chambre. Oui, la chambre où cette pauvre Fanny a été trouvée égorgée et saignée comme un simple mouton. Je vous disais que l'harmonie de cette fameuse chambre glauque, mais glauque comme le fond de la mer ou le lit d'une source, a été la seule cause du meurtre. Vous abusez, cigare. C'est la pure vérité pourtant. Tendu de larges panneaux, de vieilles soies ravagées de feuilles d'acanthe, mais d'une soie introuvable, épaisse comme du cuir et changeante comme une moire, cette chambre, tour à tour, du vert argenté de la feuille de saule et du vert jaune de l'absinthe, était le chef-d'œuvre et l'orgueil de Dorgis. La merveilleuse tapisserie à personnages sur fond d'or, dont on a tant parlé dans la presse, en occupait tout le fond, hallucinante, fantasmagorique presque, dans la pénombre, verte des ténèbres, véritable songe tissé dans cette haute pièce sonore, ce qu'elle semblait peuplée d'illusions. Et vis-à-vis, c'était le grand lit de milieu en bois de citronnier, avec ses quatre frêles colonnettes, lit debout comme un catafalque au milieu de cette chambre toute de soie, sans autre meuble que sur le tapis verdâtre, des piles de coussins, des coussins partout, des coussins en morceaux de toutes les nuances vertes connues, soie et velours, ceux d'Italie, ceux d'Orient, avec dans leur traîne tous les reflets de soleil et d'une lune qui s'éveille les broderies de vieilles or et les guipures d'argent, les terribles coussins d'aujourd'hui tachés de rouge où le cadavre de Fanny fut trouvé si délicieusement nu dans sa chemise de soie pâle. La gorge coupée, oui, tout simplement. Et le juge d'instruction, qui a cru un accès de sadisme, un raffinement de volupté, à de l'érotomanie, à je ne sais quelle cruauté du monde. Mais si Dorgis s'est laissé aller ouvrir la gorge de sa maîtresse, c'est tout simplement pour trouver le vieux rose. Le vieux rose, c'était la couleur même des lèvres de Fanny, cette bouche un peu fanée, au dessin pourtant si pure et d'une si jolie tristesse, avec ses coins légèrement tombants. Ce vieux rose était l'obsession d'Orgis. Voilà plus de 3 ans qu'il le cherchait, aussi bien dans la soupente de la Reschmidt qu'à travers tous les bric-à-bracs des deux rives. C'était la couleur complémentaire qui éveillerait et pacifierait à la fois les bleus endormis et les jaunes inquiétants de la fameuse chambre verte. À certaines heures du jour, dans certains jeux de lumière, des fissures apparaissaient tout à coup dans la glauque harmonie de la pièce. À un moment, Dorlis avait cru y remédier en installant ça et là, sur les consoles de velours vert, de petits bronzes antiques dont le vert de gris blêmissait. Mais à la tombée de la nuit, la pâle statuette prenait l'aspect de moisissure, quelque chose de spongieux et de vénéneux semblait pourrir là, dans les arbres, dans les angles. Et il lui fallut de la chair de femme à la place de ce vert de gris, du rose atténué, de pétales de fleurs, de fleurs de pommier ou d'églantines, ou de la peau de femme anémique, comme il le dit un jour lui-même, devant un tas de pièces de soie déployées sur son lit, toutes d'un rose trop vif ou trop neuf, apportées là comme échantillon. Oh, aucune de ces soieries n'est vraiment rose. Il y a du jaune dans tout, ou pis du violet. Oh, elles sont toutes oranges, vineuses ou saumon. Oh, entre ces 4 colonnettes, une telle tache de chair qui, comme un coup de gant, ferait taire et rentrer dans l'ordre tous les bleus latents, les jaunes honteux de cette chambre que je voudrais vermir, avec ça et là des reflets vert saules et qui tournent au vert tilleul par place, affreusement. Et c'est alors qu'il prit pour maîtresse cette pauvre Fanny Rodars. Chacun s'en étonna dans son monde, car avec sa beauté meurtrie, son joli corps gracile, mais aux chairs un peu mûres de modèle de 28 ans, Fanny, malgré ses grands yeux de violette et ses beaux cheveux d'un châtain luisant, comme toujours humide, était plutôt une créature de charme triste que d'immédiat désir. Son profil grave et sa bouche fanée en faisaient le type de l'ami, mais pas celui de la maîtresse. Mais c'était l'anémie même de la pauvre fille qui pour moi séduisait d'Orgis. Oh, le rose de ses lèvres, disait-il un soir que nous allions dîner au restaurant, c'est ce rose-là que je cherche. Or, pour moi, qui connais à fond mon homme, je reconstitue très bien la scène. Savez-vous comment a eu lieu le meurtre ? D'Orgis et Fanny étaient, cette nuit-là, couchés comme la veille et l'autre nuit, ni plus ni moins. Et en dormant, une épingle à cheveux a dû blesser Fanny à la joue, à la gorge, qu'importe, et faire perler une goutte de sang. D'Orgis s'est éveillé et sous la lampe de nuit a regardé, comme nous le faisons tous, sa maîtresse dormir. La goutte de sang l'a attiré. Oh, elle devait avoir le ton même du vieux rose, ce vieux rose que Fanny avait sur ses lèvres et sûrement dans ses veines. Alors D'Orgis a tressailli, le collectionneur s'est réveillé en lui, et avec le collectionneur, le dépravé de nuances et avec le dépravé, le maniaque. Or, le maniaque, vous le savez, c'est la bête brute, l'animal féroce. D'Orgis s'est trouvé tout à coup avec des mains d'étrangleur, d'assassin, et il a tué Fanny, inconscient, j'en suis sûr, par amour du vieux Rose, pour une goutte de sang. Allez donc persuader cela à un juge d'instruction.